des enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin, c'est à vous.
Bonjour Guillaume Erner et bonjour Eugène Berg.
Bonjour.
Alors vous êtes ancien ambassadeur, auteur de La Russie pour les nuls, le nom de l'éditeur m'échappe à l'instant.
First,
d'accord.
D'accord.
Alors, voilà. On va parler de la Syrie, du jeu diplomatique des puissances, notamment de la Russie. Alors, parmi les puissances moyennes et les grandes puissances, les positions de principe sur le conflit syrien ont été relativement différentes. Londres s'est montrée en retrait. Paris a été enfermée longtemps dans son ni l'État islamique, ni Bachar el-Assad, qu'elle a encore systématisé à l'automne dernier en réclamant le départ de Bachar el-Assad, prérequis à toute négociation. Les États-Unis ont été plutôt changeants. Et la Russie, elle, donc, on va en parler dans un instant, peut trouver sur franceculture.fr, une carte de Camille Renard, donc sur justement les alliances entre États. Alors les raisons qui ont présidé à l'engagement de la Russie aux côtés du régime syrien sont connues, et parmi les motivations politiques, entre autres, un vieil allié au Proche-Orient, Moscou a craint la chute rapide du régime à l'été 2015, et la dispersion des islamistes radicaux, notamment des islamistes russes engagés aux côtés de l'État islamique, etc., etc. De multiples raisons, on les retrouvera sur franceculture.fr. Donc, comment est-ce que vous analysez le jeu des puissances dans la région aujourd'hui sur le plan diplomatique?
Oui, alors, d'abord, pour les motivations, il y en a beaucoup, je pourrais les énumérer, mais je voudrais faire une remarque générale. Bon, pour les Occidentaux, la Syrie, c'est surtout une guerre civile contre un tyran, un dictateur dont il faut se débarrasser pratiquement à tout prix. Ça, c'était la position de départ, et on a évolué après le 13 novembre, les attentats et tout. Je crois que notre lecture est plus fine. Mais en ce qui concerne la Russie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se considère comme un expert qui a souffert de l'islamisme radical, ce qu'elle appelle le terrorisme international, l'Afghanistan, la Tchétchénie, et elle a prévenu des Occidentaux que c'était le mal absolu, en quelque sorte, qu'il fallait combattre et qu'il fallait mettre provisoirement de côté le problème du régime. Et je fais un petit aparté historique. Lorsque les soviétiques sont intervenus en Afghanistan en décembre, eh bien, Carter et Brzezinski avaient déjà aidé, bien avant, les islamistes, le futur Ben Laden. Donc, il y a un long antécédent, il y a un long face-à-face de la Russie et ce qu'ils appellent le terrorisme international.
Alors, on va y...
C'est important parce que le regard que nous, occidentaux et russes, portons et continuons de porter sur le drame syrien n'est pas tout à fait le même. On s'est rapproché beaucoup, c'est vrai, mais on diverge là-dessus.
Alors, il y a une chose un peu paradoxale à propos des Russes, Genberg, c'est le fait qu'ils s'accoudent très confortablement d'une façon paradoxale sur le droit international, qu'ils ne respectent pas, donc, le cas échéant, évidemment, en Crimée 2014, et que c'est eux qui ont appelé une large, et je le cite, président Poutine à l'ONU, en septembre dernier, ils ont appelé à une véritable et large coalition antiterroriste internationale, fin de citation. Il se pose un peu comme les parangons du droit international.
Bon, ça c'est un large débat de savoir, bon, il y a eu quand même un référendum en Crimée, même s'il a été fait dans certaines conditions que tout le monde n'accepte pas. Bon, là-dessus, c'est pas l'objet aujourd'hui. Non, ce que les Russes ont mis toujours en avant, c'est que, qu'on le veuille ou non, Bachar el-Assad a été élu avec une vaste majorité, même s'il aimait, bon, on sait très bien... dans quelles circonstances il a été élu, comment il tient son peuple, mais c'est le gouvernement légal. Et il s'appuie toujours sur un autre argument, c'est que c'est la demande du gouvernement syrien que eux sont intervenus dans ce pays, alors que les autres pays, y compris la France et évidemment les États-Unis, leur intervention ne repose pas sur des bases tout à fait solides. Alors évidemment, vous me direz, c'est un débat un peu casuistique, mais c'est leur position, donc ils sont toujours dans cette position de légalité. Cela dit, ils ne sont pas attachés corps et âme à Bachar, à la personne. Ils disent toujours le régime de Bachar. Ils sont convaincus que si lui et son clan, sa famille, disparaissaient, que tout l'État s'écroulerait, et le précédent libyen est pour eux un précédent qu'il faut éviter à tout prix, sans parler de l'Irak.
Alors,
voilà les positions un peu fondamentale de la Russie vis-à-vis de ce drame.
Alors il y a une chose quand même, Jeanne Berg, il y a une chose quand même intéressante aussi par rapport à la Russie, on l'avait souligné ici à l'époque, c'est la fameuse résolution ONU 2254 de décembre dernier, donc sur un processus de paix. Et alors, il y a quand même, dès les premiers paragraphes, quelque chose qui est intéressant, donc signé évidemment par l'ensemble du Conseil de sécurité, c'est le fait qu'il faut maintenir l'unité de la Syrie. Est-ce que c'est quelque chose qui est important vu de Moscou?
Oui, parce que, bon, là, c'est une question très fine. Certains voudraient effectivement s'orienter vers un démembrement de la Syrie. Pour l'instant, il n'en est pas question. Simplement, ce qu'on peut discuter, c'est le degré de fédéralisation éventuelle, comme certaines forces russes voudraient peut-être fédéraliser l'Ukraine ou l'Irak. Là, c'est quelque chose qui est très encore en pointillé. On ne peut pas exclure effectivement un remodelage de l'État syrien. Mais ça, je crois, une étape ultérieure. Pour l'instant, la résolution à laquelle vous faites allusion, cher Thierry Garcin, pour elle, c'est un gouvernement de transition dans les 6 mois, une nouvelle constitution dans les 18 mois et des élections constitutionnelles libres. Effectivement, c'est au peuple syrien de décider quel type d'ordre constitutionnel il veut instaurer.
Alors,
évidemment, ça suppose évidemment une trêve, la cessation des combats, et on en est malheureusement encore loin, c'est vrai.
Mais on en est très loin, évidemment. Ouais. Genève, dernière question, et vous aviez attiré mon attention là-dessus en préparant l'émission l'autre jour, Genève, c'est la relation Moscou-Israël.
Oui, alors là, c'est intéressant. Vous savez que Netanyahou, il vient juste de se rendre à Moscou. C'est la 3e fois depuis septembre, et la 4e fois en un an, alors que les relations entre Obama et Netanyahou sont beaucoup plus froides. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit du soutien à la Syrie et des liens très forts avec l'Iran, Israël voit très bien, il reconnaît que la Russie maintenant a un rôle quasiment prépondérant dans cette région, que la Russie a des relations avec tout le monde, y compris avec des États pour lesquels les États-Unis et surtout l'Iran n'a pas de relation. Et donc, l'Israël attend un rôle modérateur de la Russie vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de la Syrie. En échange, Israël peut modérer son attitude vis-à-vis de la Syrie. Et surtout, éventuellement, en cas de veto ou de changement de la ligne américaine ou même française vis-à-vis des Palestiniens, Israël attendrait éventuellement un certain soutien russe. J'ajoute aussi qu'il y a 1 million de Russes juifs en Israël sur 8,6 millions d'habitants. C'est la communauté la plus importante. Donc il y a ces liens. Alors évidemment, il y a aussi des liens en matière militaire, drones, observation. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui peut présager non pas un retournement des alliances, mais un rapprochement significatif entre la Russie et Israël, et ce qui montre la subtilité, finalement, à la fois de Moscou, qui ne veut s'aliéner personne, et qui veut, effectivement, jouer un rôle important, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de cartes en main.
Alors c'est ça, oui, effectivement, et les Russes sont intervenus aussi militairement à partir du 30 septembre dernier pour pouvoir jouer, j'imagine, un rôle important dans les négociations. C'était un gage diplomatique, on va dire.
Autre élément que je voudrais apporter, j'ai juste...
D'un mot, Jeanne Berg.
Comment ?
D'un mot, parce qu'on arrive à la fin.
Non, il y a 3500 Russes qui se battent aux côtés de Daesh et des autres, alors qu'il y a encore un an, on parlait de 2500. Donc vous voyez, là aussi, c'est l'une des motivations russes de les abattre là-bas, alors voilà. Plutôt qu'ils reviennent au Caucase. C'est important et c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue.
Merci Eugène Berg, donc ancien ambassadeur la Russie pour les nuls chez First et franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.